n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Et pendant l'été, le samedi et dimanche de 15h à 16h, Isabelle Morizet vous propose de découvrir ou redécouvrir ces chanteuses et actrices exceptionnelles qui, ces dernières années, sont venues se confier dans l'émission. Depuis juillet, nous avons croisé Carole Bouquet, Sandrine Bonner, Juliette Binoche, Cecilia Bartoli ou encore Monica Bellucci. Ce dimanche, nous sommes avec l'actrice et chanteuse Jane Birkin. Elle était venue dans l'émission en novembre 2014. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie spéciale, Les Éblouissantes, épisode 12. Ça démarre maintenant sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour Jane.
Bonjour.
Jane, est-ce que c'est parce que vous avez toujours pensé que sans votre accent anglais, les Français vous aimeraient moins, que vous êtes sans doute la seule Anglaise qui, après 45 ans passée en France, n'a pas perdu son accent?
Je pense que tous les immigrés gardent leur accent et leurs enfants n'en ont pas. J'ai parlé avec un taximan hier et lui aussi, il avait un accent, il était portugais. Et on n'arrive pas de s'en débarrasser du accent. Pourtant, j'ai essayé avec Patrice Chéreau, parce que j'ai pris un coach qui était là, Claude Stratz, qui m'a...
Quand vous avez joué du Marivaux, quand Exactement. Vous avez joué la comtesse de la fosse suivante.
Ouais, je voulais vraiment, c'est pas tellement pas avoir d'accent, parce que ça, on peut pas le tuer complètement, mais je voulais dire correctement le texte et le grammaire surtout. Donc j'ai pris un coach, et après ça, j'ai fait des airs en français, parce qu'avant c'était « r », maintenant c'est... C'est avec un air français. Mais c'est vrai que je me gourde dans les masculins, les féminins et je suis cuit un peu avec les...
Ça n'est pas de la coquetterie.
Avec le passé, le présent et le futur.
Alors, je vous ai déjà entendu dire, Jane, en fait, je suis une étrangère tout le temps. Les Anglais connaissent assez mal mes films et mon répertoire. Ils se retournent pas forcément sur moi dans la rue. Ils ignorent beaucoup d'ailleurs de mes combats. Donc en France, vous êtes une Anglaise qui a opté pour la culture française. Mais en Angleterre, est-ce que vous êtes une Anglaise?
Ah, je suis pas connue en Angleterre du tout. Quand je vais là-bas, ils me demandent pas si j'ai un accent français, par exemple. Mais je vais habiter chez ma sœur et puis voilà, les taximans anglais ne me connaissent pas.
Mais c'est absolument incroyable de vous entendre dire les Anglais ne me connaissent pas du tout.
Non, non, parce qu'il n'y a jamais eu un film qui était sorti. Il n'y a jamais eu une chanson, si, Je t'aime non plus.
Oui.
Alors quand on mentionne Je t'aime non plus à un taximan, il arrête le taxi et fait le tour. Et ça, c'était trop formidable. Mais sinon, je ne suis pas quotidienne comme je suis en France, d'être sur la télévision, de faire tous les shows des Carpentiers, d'avoir été dans le passé des gens. Ça, je n'ai pas en Angleterre. Pour les concerts, c'est toujours plein.
Oui.
Peut-être qu'il y a beaucoup de Français à Londres.
Toujours sa modestie. Jane, quand vous souriez, vous irradiez, et pourtant, malgré votre humour, je me demande si vous n'avez pas toujours été faite pour la mélancolie. Par exemple, vous avouez que vous avez tendance à aimer les gens quand ils sont malheureux, et vous avez tendance à aimer les musiques quand elles sont jouées en accord mineur. Est-ce que derrière votre carrière qui est phénoménale, la mélancolie n'a pas toujours été votre jardin secret?
Serge écrivait les chansons en mettant mélancolique. Je suppose les gens nostalgiques pour leur enfance. C'est vrai que j'aime la musique en mineur plus que majeur. Il y a une tendance peut-être d'aimer le passé.
Alors depuis longtemps maintenant, vous êtes une femme libre, libre de toute tutelle artistique, libre, allez, pardonnez-moi l'expression, mais libre de tout mentor, de tout pygmalion, comme ont pu l'être Gainsbourg pour la chanson ou Jacques Doyon pour le cinéma. Est-ce que cette liberté totale, Jane Birkin, cette indépendance qui est la vôtre aujourd'hui, parfois, vous effraie?
Non, mais je ne suis pas indépendante. Je fais toujours quelque chose pour plaire à quelqu'un. Ben oui, alors je ne suis pas effrayée en tout cas, pas du tout.
Parce que quand vous sillonnez en permanence la planète avec des tournées qui n'en finissent pas, de Hong Kong à Caracas en passant par Moscou...
Maison. Je ne voulais pas être à la maison. Je trouvais ça chic de vivre dans une valise et de faire des allers-retours, d'emmener les petits-enfants avec moi quand j'avais des dates dans les endroits exotiques. C'était trop bien. Alors que seule à la maison, ce n'est pas très marrant.
Vous les avez souvent emmenés, les petits-enfants?
Assez souvent, oui.
Loin, très loin.
On est tous allés très loin.
Même si artistiquement, vous êtes à jamais la légataire universelle de Gainsbourg, qui nous a quittés le 2 mars 91, à partir de quand, Jane Birkin, avez-vous eu le sentiment d'écrire vous-même la suite de l'histoire?
Oh, j'ai pas cette impression du tout. Quand Serge est mort, j'ai fait le Casino de Paris avec le dernier disque qu'il m'a écrit, qui était Amour des Feintes. Et avec Philippe Le Richomme, qui est toujours là pour moi. et qui a mis en scène ce concert assez malheureux parce que c'était tout de suite après. Ma mère était avec moi beaucoup parce que j'avais perdu mon père aussi 4 jours après. Et c'était le moindre des choses que je chante tout ce que j'avais écrit en dernier, si je les aimais ou pas, dans mon disque Amour des Feintes. Et après, j'ai tellement fait de tournées que je pensais peut-être que je devrais arrêter. Et j'ai fait autre chose pendant quelques années. Puis je demandais à Larry Shum s'il pouvait m'aider si je voulais chanter d'autres personnes. Et du coup, on avait fait Rendez-vous et d'autres disques avec Miossec, Dao, oui. Les personnes que j'admire beaucoup, oui. Qui a écrit pour moi, Françoise. Et puis j'ai refait Arabesque l'année dernière. Et avec les Japonais, j'ai fait Sage encore l'année d'avant, c'est vrai. Ça m'embarquait bien loin, jusqu'au Japon. Et ça me gêne toujours d'être gardienne des temples. J'ai l'impression d'être avec une toge et une fourchette à la main.
L'ambassadrice de son œuvre. Parce que c'est quand même étonnant. J'ai évoqué à l'instant les tournées incroyables que vous faites partout au bout du monde. Mais j'ai vu des noms de villes comme Jakarta, Sarajevo, Bangkok, Gaza, Tokyo, Caracas, Beyrouth, Moscou. Vous aimez à ce point être en balade loin de chez vous, comme vous dites?
C'est quelque chose qui m'a pris très tard dans la vie. Quand les enfants étaient bien grandes et j'ai commencé ce vide de tournée que je ne connaissais absolument pas. Avant de connaître Glusman, en fait, mon producteur, je ne connaissais pas cette vie du tout. Et c'est très saoulant. C'est un peu comme les gens qui sont appelés en urgence. Je ne sais pas, je suppose que où est la prochaine destination? On repart avec Christophe dans le train, on ne sait pas où on va aller, j'oublie les...
Un vertige et c'est bon de s'oublier, c'est ça?
Ah oui, c'est très bon.
Mais alors, Jane Birkin, quand vous faites des tournées internationales, vous emportez un concentré de votre univers à vous? Par exemple, qu'est-ce que vous glissez dans vos bagages que vous sortez en premier dans vos chambres d'hôtel du bout du monde?
Mes pyjamas.
Toujours la protection.
Oui, oui. En pilou.
Celle qui a été la plus incroyable des séductrices ne s'est jamais vécue comme une séductrice. Normalement, Jane Birkin, il n'y a que les divas du classique ou les reines de la pop internationale qui font des tournées comme vous en faites. Est-ce que vous savez pourquoi tous les coins de la planète vous faites sale comble, comme par exemple à Hong Kong? Vous n'allez pas me dire qu'il y a beaucoup de Français et d'Anglais à Hong Kong.
Non, ça ne suffit pas. Je t'aime non plus. Je crois que c'est à cause de ça.
C'est le passeport, cette chanson.
Oui, je crois que c'était pour cette chanson-là que j'étais connue et les gens sont curieux, beaucoup plus curieux qu'on imagine, donc ils se pointent. J'étais la première personne qui était surprise qu'on a fait 2 nuits à Hong Kong complet, ouais. Alors que j'ai jamais rien fait qui a sorti là-bas, je crois pas des films, donc si je t'aime non plus.
Mais alors lorsque des dates sont choisies à Hong Kong par exemple, c'est le tourneur qui a cette idée, c'est votre producteur, c'est
bien
vous
sûr.
Qui dites « et pourquoi n'irais-je pas chanter là-bas »
Ah pas du tout, non c'est lui. C'est lui, je peux dire non, hein. Mais pour le moment, ça ne s'est pas arrivé.
Sincèrement, est-ce que Serge se doutait que longtemps après sa mort et malgré votre séparation, vous seriez la gardienne, je ne vais pas dire du temple, mais de la mémoire?
Je ne crois pas, je ne crois pas. C'est très trivial en comparaison de la mort, quand même. Alors je ne sais pas à quoi songe-t-il. Mais il m'a écrit pour moi après... qu'on était séparés, j'étais très touchée par ça, qu'il trouvait que je valais encore le coup. Il aurait pu m'en vouloir, et pas du tout. Il a écrit les chansons les plus sincères en me mettant à sa place. J'étais comme une face B de lui, une face féminine de lui. Je chantais toutes ses blessures. C'était assez difficile à chanter avec lui qui pleurait de l'autre côté de la vitre. Mais voilà ce que je pouvais faire de bien, c'était de chanter très haut et très purement ses chansons. Et pour ça, il a été d'une fidélité incroyable. Donc je lui dois beaucoup.
C'est rare de réussir l'amitié après la passion.
Je crois. Je crois. Parce que quand on l'a réussi à ce point comme ça, on se rend compte comme c'était triste de n'avoir pas fait avant avec d'autres, de n'avoir pas fait un effort. Souvent, la faute est soi-même. On était trop orgueilleuse, trop fière. Ça fait qu'on ne fait pas l'effort de téléphoner, de renouer ou on a trop peur. Et finalement, c'est pratiquement aussi délicieux que le temps qu'on a resté amoureux avec quelqu'un. C'est cette amitié fidèle. C'est au-delà de touchant.
On retrouve tout de suite Jane Birkin.
la chanteuse que l'on retrouve sans plus tarder aux côtés d'Isabelle Morizet. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, les éblouissantes, c'est jusqu'à 16h sur Europe 1.
Alors, Jane Birkin, c'est votre père le premier qui vous a mis sur la voie de l'engagement, puisque vous n'aviez que 12 ans, paraît-il, quand il vous a demandé de défiler avec lui contre la peine de mort en Angleterre, et vous aviez 16 ans quand il vous a inscrite à Amnesty International. Votre père avait été résistant, commandant dans la Royal Navy. Comment avez-vous grandi sous son regard ?
J'ai essayé de l'épater, je crois. Quand je partais pour Sarajevo, il n'était plus là. Mais dans ma tête, je chantais en me disant, voilà, papa aurait été content que je fasse ça dans un tank par la Montigman. C'est le sort de choses que papa aurait fait. Et quand j'étais petite, c'était juste une question de bataille entre mon frère et moi, de lequel allait être plus courageuse pour sauter par la fenêtre avec un fil dessus, autour de notre taille pour tester l'extincteur de feu que papa avait acheté. Et mon frère disait, bien sûr, toi, tu étais le premier par la fenêtre avec le cordon autour de la taille. Le pauvre, il était gonflé par sa petite sœur. Et je faisais tout ça pour papa, bien sûr.
Mais il devait être difficile à épater, ce père, parce que il a fait sa guerre à lui, votre père, en sauvant des vies, puisqu'il faisait passer deux nuits des hommes en Bretagne et en évacuait d'autres vers l'Angleterre, toujours avec sur lui, d'ailleurs, détail terrifiant, la fameuse pilule de cyanure au cas où il serait pris. Est-ce qu'il vous a parlé de cette période pendant votre enfance ou au contraire, il avait évité de le faire ?
Non, il n'en a pas parlé parce que il y a l'Official Secrets Act, l'acte de le secret de ce qu'il a fait pendant la guerre. Il fallait qu'il se taise jusqu'au 67. Donc, on savait quelque chose, mais pas énormément de choses.
C'est après que vous avez
appris.
C'est
après, mais je savais que ses amis étaient français. Je savais que les résistants français étaient ses héros à lui. Et il disait que c'était infiniment plus difficile de faire les 4 ans de la guerre en France où vous avez l'ennemi sur votre palier de votre porte en frappant à la porte en disant « est-ce que les enfants vont à l'école ?» que c'était 1000 fois plus terrifiant que de partir d'Angleterre les nuits sans lune dans son bateau comme il faisait. Donc ses héros à lui étaient Job Mungi, en Finistère. C'était les personnes des Tanguy, c'était les personnes qui abritaient les aviateurs anglais à péril de leur vie et qui les emmenaient sur la plage pour être récupérés par papa. Et c'était ces personnes-là qui mettaient en lumière, c'était pas lui-même.
Plage en Bretagne sur laquelle vous avez acheté une maison sans doute pour vous rapprocher de votre père.
Oui. Ouais. Oui.
Il était militaire de carrière ou bien il exerçait
pas
un autre métier ?
Non, je ne sais pas ce qu'il faisait avant la guerre. Je pense qu'il faisait rien, il était très très jeune.
Et ensuite ?
Et ensuite, il n'a pas voulu faire les Marines du tout. Dès que la guerre était finie, il est parti à la campagne, il a acheté une ferme et il a emmené ma mère, qui était trop belle pour la laisser à Paris, enfin je veux dire à Londres, et il a embarqué juste un peu trop loin pour qu'elle puisse jouer au théâtre le soir. C'était un homme très jaloux. J'avais de la chance d'être sa fille et pas sa femme.
Alors, on l'a compris, votre maman, Judy Campbell, était comédienne, et une comédienne de premier plan en Angleterre, même si la jalousie de votre papa faisait qu'il essayait vraiment de l'attirer loin de Londres. Ceux qui se souviennent d'ailleurs de la série anglaise Les Forsyth, qui avait passionné les Français dans les années 70, se souviennent de votre maman. Quelle éducation, elle, a-t-elle cherché à vous donner ?
Oh, elle était très bien, parce que quand je voulais être actrice à 16 ans, en cachette, elle écoutait les textes que je devrais apprendre et puis elle m'a pistonné de savoir quel théâtre avait des auditions. Et tout ça en secret de mon père, qui a vraiment été très, très dur avec elle en disant qu'elle m'avait influencée, que maintenant que j'allais m'échapper de la famille, il pensait que d'être actrice, ça m'éloignerait beaucoup. Et mon frère était déjà dans les studios de films à la sortie de Londres. Donc lui, il était déjà avec Kubrick. Et maintenant, moi, je commence au théâtre. Mon père était furieux avec ma mère. Donc elle a été très loyale vis-à-vis de moi et de lui. Et un grand supporteur. Et c'est vrai qu'on ne la voyait pas beaucoup, nous, au théâtre, parce qu'on était à l'internat. Pas pour ma part très très longtemps, mais mon frère à partir de 6 ans. Donc c'est... On n'était pas encouragés de voir la carrière de maman du tout. Et c'était après quand les gens m'ont dit « Mais ta mère a chanté pendant le Blitz à Londres et quand les bombes explosaient de droite et de gauche de le théâtre, elle faisait une petite pause dans la chanson et elle mettait sa main autour de son oreille du genre, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis elle reprenait les chansons, les gens étaient debout, hystériques. Même à New York, les gens ont vu maman. Alors je me rends compte quelle carrière elle avait pendant la guerre, aussi dangereuse que papa, parce qu'elle n'allait pas dans les abris. Elle restait avec les gens dans le théâtre. Mais voilà, elle avait une carrière de théâtre qu'elle n'a pas poursuivie. Pas beaucoup en tout cas, parce qu'il y avait toujours une raison que papa trouvait. Et souvent c'était nous.
Alors je reste un moment sur l'enfance, Jane Birkin. Pourquoi à 11 ans, vous êtes-vous retrouvée en pension sur l'île de Wight, dans un internat où, paraît-il, vous avez appris le morse pour qu'on vienne vous délivrer?
Non, non, non. J'étais dans l'île de Wight, c'est vrai. Et j'avais un numéro. Moi, j'étais 99. Ma sœur était 177.
Alors, c'est quand même vrai, l'histoire de l'internat.
Oui, oui, bien sûr.
Mais il n'était pas aussi redoutable que
l'on... Il était redoutable.
Si, il l'était.
Oui, oui. Ouais. Enfin, c'est un standard anglais. Hein. Oui. Tu n'es pas permis de sortir avant les premiers 3 mois. Après ça, vous n'avez pas le droit de rentrer chez vous dans les premières années. Il n'y avait pas de téléphone permise. Il n'y avait pas, évidemment, de télévision pour voir votre célèbre maman. Tout était coupé.
Mais vous cherchiez à vous évader ou pas du tout?
Pas du tout. Je voulais être comme toutes les autres filles dans ma classe à Londres qui partaient pour les internats. C'était ma faute. Mon frère était dans l'internat aussi et lui, il avait une horreur de ça. Mais malgré tout, je voulais y aller. Et après, pour avouer à mes parents que j'avais fait une erreur, je ne voulais pas. J'étais trop fière. Et c'est seulement quand ils ont dit « Est-ce que tu es malheureuse dans l'école » que j'avais dit que s'il faut retourner, je crois que je me pendrais. Donc ils ont compris que c'était pas ma tasse de thé du tout. Et ils ont dit « Mais il fallait nous dire avant ». Et moi et ma petite sœur étaient mises dans une école à Kensington.
Quand avez-vous compris que vous deveniez jolie, Jane? Quand il paraît que vous avez traversé l'adolescence en vous attifant en garçon manqué.
Oui.
Mais il y a un moment donné où la beauté, elle, s'est imposée malgré les cheveux tailladés.
Je pense que c'était quand le père de ma fille, Kate, a tombé amoureuse de moi.
Pas avant?
Non, je ne crois
pas. Les miroirs ne vous renvoyaient rien qui puisse vous rassurer?
Si, mon frère m'adorait, il m'aimait comme un garçon.
Et c'était votre frère?
Alors je restais comme un garçon pour lui plaire.
Mais le Swinging London, les premières mini-jupes de Marie Quant, les cils étoilés que les filles se dessinaient, comme Jane Shrimpton, la guerre entre les Stars, les Stones et les Beatles, enfin bref, avoir 18 ans à Londres en 64, vous l'avez vécu comment?
C'était très gai. C'est vrai qu'on avait des mini-jupes tellement courts que c'était des longs t-shirts en fait. Et quand j'arrivais en France en 68, tout le monde pensait que j'avais la jupe la plus courte du monde. Et c'est pas vrai, en Angleterre, elles étaient tous comme moi. Et c'était très gai parce qu'il n'y avait pas que des filles minces et, je sais pas, des mannequins qui portaient des mini-jupes. Il y avait des filles énormes et des filles toutes maigres, et toutes les sortes de filles, avec un énorme sourire sur leur visage. Donc King's Road était vraiment d'une gaieté folle.
C'était un laboratoire de fantaisie, c'est ça? Tous les codes explosaient.
Ah oui, parce que pour la première fois, la mode était pour les jeunes. La chanson était pour les jeunes, ouais. Avec les Beatles et les Stones, bien sûr. Les photographes les plus célèbres étaient David Bailey avec son accent. Les personnes qui écrivaient des musiques de films avaient un accent de le nord d'Angleterre comme John Barry. C'était une révolution culturelle.
Et la jeunesse a enfin pris le pouvoir dans
et
les années 60.
C'était la jeunesse, oui, oui, oui. Et ça, c'était très gai d'avoir été dedans. Je ne me rends pas compte parce que quand on est dedans, on n'est pas en train de dire « youpi ». J'étais mariée, j'avais peur de perdre mon mari, qu'il trouverait quelqu'un de plus joli que moi. Et ça n'a pas tardé. Mais je n'ai pas profité des années de Swinging London. Quelques boîtes de nuit. Ah, d'ailleurs, j'étais souvent dans les boîtes de nuit. Mais bon.
Parce que vous avez vite traversé la Manche. Oui. On va l'évoquer, on fait une courte pause et on retrouve tout de suite Jane Birkin cet après-midi, mon invitée.
Sur Europe 1, le samedi et dimanche, de 15h à 16h, redécouvrez les portraits de ces femmes remarquables venues se confier à Isabelle Morizet. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, collection Les Éblouissantes, ça continue avec aujourd'hui, Jane Birkin.
Jane Birkin. On a dit tout à l'heure que votre mère était une grande figure du théâtre anglais. Est-il vrai que le premier commentaire que vous avez entendu le jour de votre première audition à Londres fut « C'est la fille de Julie Campbell ». Ça se voit pas.
Oui, c'est ça.
On vous a dit ça. En tout cas, vous l'avez... On l'a murmuré et vous l'avez capté.
Ah, j'ai capté tout de suite. Maman était une brunette avec les cheveux noirs. Elle était tellement magnifique comme une star de Hollywood. Elle ressemblait à Vivien Leigh. Donc c'est vrai que moi, j'étais comme un souris en comparaison d'elle. Donc quand la personne a dit « Ah oui, mais... » Il a dit « Vous n'avez pas son... » Et puis chercher le mot. Et j'ai dit « Charme ». Et il a dit « Oui, c'est ça ».
Il a osé vous dire vous n'aviez pas son charme.
J'étais très jeune. Oui, oui. Alors, je savais que maman était adorée et très, très belle. Vraiment belle, pas jolie, hein. Belle.
Plus tard, quel est celui de vos rôles qui a le plus impressionné votre mère et a fait sa fierté?
Cette mort sur ordonnance.
C'est le film qu'elle préférait.
Oui, je crois que c'est la première fois qu'on m'a proposé un rôle qui n'était pas drôle.
Aux côtés de Gérard Depardieu.
C'est ça, exactement, et Piccoli. Et ma mère trouvait que je devrais faire une carrière comme Shirley MacLaine, drôle et triste aussi. Et elle était très fière de cette mort sur ordonnance.
Ce que vous avez fait, Jane.
C'est ce que j'ai fait, mais j'ai commencé par les choses bien drôles, hein, avec Zidi et le moutarde momentané, le
conseil d'échalote.
C'était quand même délicieux comme début. Mais c'est vrai qu'après, c'était pas mal de tourner des choses plus graves.
Alors, on reprend la jeunesse de l'histoire. À 18 ans, vous êtes engagé dans une comédie musicale dont le compositeur que vous allez épouser n'est autre que celui qui signera les musiques des James Bond, de Macadam Cowboy, de Danse avec les loups, de Out of Africa. C'est John Barry. Est-ce que savoir se faire aimer de ceux qui ont un talent d'exception, comme la suite de votre histoire va nous le prouver, ça n'est déjà pas une forme de talent?
Oh non, je crois pas. C'est peut-être une vanité. Une vanité de penser que... Voilà, que c'est pas les autres filles dans la comédie musicale, mais c'est vous qui a pu capter l'attention de cet homme brillant. Sans doute qu'il y a un peu de ça.
Vous retrouvez à l'affiche d'une comédie musicale, ça révélait que chanter vous intéressait plus que jouer?
Ah non, pas du tout, parce qu'on me donnait rien de joli à chanter. Il fallait juste que je braille. Je devrais développer ma poitrine. C'était pas une chanson très jolie, ni très haut, ni tous les atouts que sais-je à trouver plus tard. Là, on me demandait juste de gueuler. C'était pas pour les chansons, c'était parce que j'étais rigolote, parce que je les faisais rire.
Vous saviez pourquoi vous les faisiez rire?
Parce que j'étais maladroit. Et ils ont dit surtout n'apprenez pas à chanter, surtout n'apprenez pas à danser, parce que c'est comme ça qu'on va développer votre caractère et on va rigoler. C'est vrai qu'ils ont beaucoup ri. Hein.
Ensuite, Jane, vous avez participé à l'aventure de Blow Up, le film devenu culte d'Antonioni, qui a fait scandale au Festival de Cannes en 67. Ce parfum de scandale et de controverse qui a parfois imprégné votre carrière avec Gainsbourg et avec Doyon, il était donc déjà là, à Londres, autour de vous quand vous aviez 20 ans. Ça aussi, c'est un talent, le fait de savoir être là où on casse les codes et les conventions.
Même pas. Je pense que John Barry m'avait dit que je n'oserais pas faire une scène tout nu. Et pour lui prouver que j'avais ce courage-là, moi qui éteignais les lumières, j'ai fait Blow Up. Parce qu'il avait dit, c'est dommage, parce qu'Antonioni est un des meilleurs metteurs en scène du monde. Je ne savais même pas ça. Je l'ai fait comme un défi.
Est-ce que casser les codes, finalement, ce n'est pas ce que font Charlotte et Lou en permanence dans leur carrière à elles?
Ah ben avec beaucoup, beaucoup de discernement et beaucoup, beaucoup de courage et de montrer leur visage nu et tel quel. Et...
C'est dans l'ADN familial. Casser les codes.
Charlotte a un don de comédien qui est tout à fait exceptionnel, de pouvoir être crédible dans tous les rôles, de l'imaginer comme dans Trois Cœurs où elle vivait dans, je sais pas, à Lyon ou avec Deneuve comme sa mère et Chiara qui jouait sa sœur, c'était complètement crédible. Là, dans le dernier film Samba, on la croit parfaitement. C'est une capacité extraordinaire de naturelle. Et une capacité aussi de pouvoir dire des textes très longs, très compliqués, comme elle a fait avec Oliana, dans le théâtre. Elle était éblouissante, donc c'était un caractère tout à fait à part d'actrice. Et Lou, elle m'a tellement épatée avec son premier disque où je ne savais même pas qu'elle écrivait depuis des années et que quand elle chantait devant nous, c'était ses chansons qu'elle était en train d'écrire. Et en entendant le premier, j'ai juste pensé à téléphoner Étienne Dao aussi vite possible et qu'il entende la même chose que moi. Je pensais que je n'étais même pas assez bien pour elle, pour la produire. Et c'était une évidence que ça allait casser le baraque, une évidence. Et même les gens qui ne comprenaient pas ce qu'elle disait, j'étais à l'hôpital à l'époque et les infirmières de nuit venaient dans ma chambre pour écouter Lou et séduite par sa voix. Donc je me suis dit qu'elle a vraiment quelque chose et un courage de le faire, et en anglais, et les musiques aussi. Non, elle est épatante, Lou.
On retrouve tout de suite Jane Berkey.
Bon week-end, vous écoutez Europe 1, encore en vacances? Profitez. Jusqu'à 16h, on passe un moment avec Isabelle Morizet qui, pendant l'été, a décidé de rendre hommage à ses artistes et femmes légendaires. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, les éblouissantes, c'est ce dimanche avec Jane Berkey.
Jane Berkey, est-ce que la maison du 5 bis rue de Verneuil à Paris, où Serge Gainsbourg et vous avez écrit les heures les plus intenses de la pop française, sera un jour ouverte au public?
D'abord, ce n'est pas un musée. On ne peut pas se mettre sur une liste pour aller le voir. C'est à Charlotte. Et c'est quand Charlotte voudra que ça soit un musée ou vu par elle ou peut-être vu par Internet, va savoir. Elle va peut-être un jour décider de le montrer. Moi, j'évite de passer devant. Quelqu'un avait peint la maison tout en noir l'autre jour. C'était bien bizarre. Mais les gens ont trouvé un moyen avec de la peinture blanche pour refaire les dessins. Et il y a du passage. C'est étonnant de voir ce mur. J'ai jamais eu envie de réentrer dans le salon ni monter les escaliers. Pas vraiment.
Il paraît qu'en 12 ans de vie commune dans cette maison, jamais vous n'avez surpris Serge en train d'écrire. En fait, chez lui, il se sentait trop bien pour trouver l'inspiration.
Il m'a toujours dit qu'il écrivait mieux quand il n'était pas en confort chez lui et qu'il était mieux quand il était en campement sur mes tournages. Où il a écrit « L'homme à la tête de chou ». En fait, Melody Nelson et « L'homme à la tête de chou » étaient les deux bijoux, je trouve.
Et il les a écrits parmi les techniciens sur les tournages.
Oui, oui. Parce qu'il trouvait ça trop parfait quand il était à la maison.
Alors Jane Berkey, lorsqu'en 1968, vous avez décidé de laisser derrière vous l'Angleterre, c'est donc à Paris plutôt qu'à Rome ou à New York. Anglaise, vous auriez pu prendre un avion pour New York, mais c'est à Paris que vous avez choisi de tenter votre chance. Est-ce que vous saviez qui était Serge Gainsbourg quand on vous a engagé pour jouer avec lui dans le film Slogan?
Non, je n'avais aucune idée qui c'était. Je pensais qu'il s'appelait Bourguignon, mais je pense que je me suis trompée parce que c'était un plat. Et il était
très vexé.
Et comme il avait déjà fait les tests avec plein d'autres filles, dont Marisa Berenson, je savais que moi, arrivant comme ça, en parlant pas le français en plus, avec un accent épouvantable et les dents en avant, et je ne sais pas, tout un côté anglaise qui doit l'avoir irrité, quelque chose de terrible. Il n'a fait aucun effort. Il était très sarcastique. Mais il m'a quand même aidée quand je me suis trompée dans le texte. Il m'a quand même aidée. Et puis je pleurais beaucoup à la fin, parce que comme j'avais perdu John Barry, je mélangeais un peu tout. Il trouvait ça dégoûtant. Mais il a dit à Grambla que j'étais la personne qui devrait faire le film.
Grambla, le producteur.
Il n'a pas fait un boycott contre moi, ce qui était quand même très étonnant parce que c'était la première chose que je faisais en France. Personne ne me connaissait. C'est après la piscine.
Comme souvent les grandes histoires d'amour, votre relation donc a commencé de façon houleuse. Et c'est « Je t'aime moi non plus », la chanson la plus érotique, la plus scandaleuse de ces 5 décennies qui a scellé la légende de votre couple. À l'époque, vous viviez à l'hôtel des Beaux-Arts où est mort Oscar Wilde. Or, il paraît que Serge a tenu absolument à tester dans le restaurant hyper chic de cet hôtel le disque qui n'était pas encore passé à la radio. Vous pouvez nous raconter?
Oui, c'était à l'hôtel et en bas, c'était un restaurant mais dans les voûtes. C'était la cave à vin qui était changée en restaurant. Et voilà Serge qui a vu le pick-up et qui a glissé « Je t'aime non plus ». Sur le pick-up, et ça allait dans tous les petits salons. Et on voyait les gens avec leurs fourchettes et couteaux suspendus dans l'air. Et il a dit, I think we've got a hit record. Je pense qu'on a un tube. Et c'était exact. Mais moi, j'avais entendu la version qu'il avait fait avec Bardot.
Ouais.
Et si je l'ai chanté, c'est pour qu'il ne chante pas avec quelqu'un d'autre après Bardot. parce que c'était trop érotique, ça faisait trop peur. Alors, quand il a dit, tiens, peut-être tu peux acheter moi non plus, mais un octave au-dessus de la version avec Bardot, j'ai dit oui, bien sûr. Mais j'étais très marquée par la version de Brigitte.
Mais c'est la vôtre qui est restée.
Parce que c'était la première.
Qu'est-ce que Serge vous a appris dans le placement de votre voix et la manière de chanter un texte que vous utilisez toujours aujourd'hui en concert?
Bah tout, parce qu'il aimait que ça soit fragile, il aimait que ça soit très très haut, il aimait qu'il y avait même des erreurs. C'est le riche homme qui me corrigeait parfois, parce qu'il savait que je ne supporterais pas un accident qui était avec une note qui n'était pas juste ou avec un mot qu'on ne comprenait pas. Mais Serge était bon public, il adorait quand il y avait des failles. Alors je suppose que j'ai appris de chanter derrière un micro. Et après, pour le Bataclan, c'était grâce à Chéro qui m'a donné le courage d'être sur scène. C'était très tard dans ma vie, très très tard.
En tout cas, si vous lui devez à Serge le charme avec lequel vous chantez, lui vous doit une partie de son look. Parce que les répétos blanches, par exemple, c'est vous qui en avez eu l'idée. Et les tours de cou avec une petite pierre précieuse dans l'échancrure de la chemise, c'est vous qui avez décidé de les mettre à son cou en vidant vos écrins, Jane, car vous trouviez que ça lui donnait un côté dandy féminin qui vous plaisait infiniment.
Oui, je l'ai trouvé dans une boutique très chic qui était des vieilles comtesses russes oui. qui venaient vendre leurs bijoux.
Vous avez accroché autour du cou de Serge les bijoux des vieilles comtesses russes.
Oui, ça lui allait divinement bien parce qu'il n'avait pas de poils. Donc c'était très joli de voir un bijou contre sa poitrine à lui. Et puis des bracelets lui allaient divinement. Et je savais qu'il n'aimait pas les chaussures parce que ça lui faisait mal aux pieds. Alors c'est là où j'ai trouvé dans un panier de solde des chaussures Repetto. Parce que je m'achetais des ballerines. Et après il n'a plus mis autre chose. Oui, et la barbe de 3 jours aussi. Parce que j'aimais pas que ça faisait trop lisse. Et maintenant, tous les garçons sont comme ça.
Absolument. Alors, certains le trouvaient laid. Vous l'avez rendu sexy. Mais est-ce que Serge Gainsbourg s'accommodait de son physique?
Je pense qu'à mon époque, il l'acceptait à cause de Bardot avant. Je pense que quand vous avez séduit la fille la plus jolie du monde, on est nettement en meilleure position de se regarder. Et je pense qu'après les chansons Manon, qui était la première chanson où il chantait vraiment avec une voix chantée, parlée. Je pense qu'il aimait cette voix. Il n'aimait pas quand il chantait la javanaise tout haut. D'ailleurs, il ne m'a jamais joué ses disques d'avant. Parce qu'il n'aimait pas la voix quand c'était chanté. Et quand il parlait, ça lui allait mieux. Donc je pense qu'il commençait de s'accepter quand même.
Il y a une chose qui m'a toujours intriguée, Jane Birkin. On sait que Gainsbourg n'aimait pas les chanteuses à voix, mais pourquoi a-t-il toujours refusé à Piaf de lui écrire une chanson? Elle l'a souvent réclamée. Vous savez pour quelle raison?
Oui, parce que elle avait une voix où elle chantait avec ses tripes. Et je pense que Serge trouvait qu'il ne ferait pas honneur, parce que pour lui, c'était les jeux avec les mots. C'était une sophistication qu'il trouvait n'irait pas avec Piaf. Il avait peut-être raison.
Il se savait un façonneur de chansons, un façonneur hors pair, mais est-ce que ses ambitions réelles et donc ses frustrations n'étaient pas la littérature et la peinture?
Je pense qu'il s'est fait à l'idée qu'il ne voulait plus être peintre parce qu'il avait commencé par ça et il trouvait que ce n'était pas assez épatant. Et pourtant, il a commencé peintre. Mais les poètes, il les estimait tellement que je ne pense pas qu'il se considérait d'être parmi eux, malgré le fait qu'il savait parfois qu'il frôlait quand même. Mais peut-être qu'il aurait aimé faire plus de films. Je pense que c'est comme cinéaste qu'il était déçu de ne pas faire plus de films. Et peut-être plus de rôles lui-même d'ailleurs. Parce que comme acteur, il n'a jamais vraiment fait des choses pour lesquelles il avait une très grande fierté. Paris n'existe pas. Quelques films comme ça où on le prenait avec son excentricité, mais il y avait peu de personnes qui avaient des imaginations. Il fallait toujours qu'ils jouent des salauds qui disaient « tue les chrétiens », tu sais, dans les films de Romains. Donc on n'a pas trouvé ce qu'il y avait de plus séduisant en lui en l'utilisant comme on a fait avec Yves Montand, par exemple.
Ouais.
Il aurait pu.
Toute période confondue, quelle est la chanson de son répertoire qu'il trouvait la plus aboutie?
Je ne sais pas.
Parce que vous avez dit à l'instant, il sentait bien parfois qu'il frôlait justement les textes.
Je pense que l'homme à la tête de chou est Melody Nelson.
Oui.
Oui.
Ces deux albums fétiches.
Oui.
Il paraît que Serge voulait que vous écriviez, Jane Birkin. En fait, il avait beaucoup d'ambition pour vous.
Oh non, il pensait que je devrais écrire pour les enfants. Et j'aurais bien voulu, en plus. Mais non, c'était pas Serge, c'était Olivier Rollin qui m'a poussée. Et c'est Doyon qui m'a dit de faire mon premier film qui était « Oh pardon, tu dormais ». Il a dit que si je devrais avoir du courage, c'est de le faire sur 1h30. Cette fille qui était si peu sûre d'elle et qui embêtait son partenaire en demandant si elle était jolie à 4h du matin. Il me connaissait si bien qu'il a dit qu'il fallait faire ça comme film. Et c'est ce que j'ai fait.
Mais comment Serge Gainsbourg a-t-il réagi quand il vous a vu dans les films de Jacques Doyon qui, lui, a fait de vous une actrice?
Je pense pas qu'il les a vus.
Il a refusé de les voir?
Pas refusé de les voir, mais je pense pas qu'il est allé les voir. Il est venu pour me voir dans la fosse suivante avec Chéreau.
Mais que vous a-t-il dit en coulisses?
Je pense qu'il était fier. Oui, je pense. Et pour le Bataclan aussi, il était fier. Mais il fallait pas pousser. Hein. Je pense pas qu'il est allé me voir au cinéma.
Vous étiez une star, Doyon a fait de vous une actrice.
Oui, absolument.
On retrouve immédiatement Jane Birkin.
Souvenez-vous, c'était il y a 5 ans, en novembre 2014, Jane Birkin venait se livrer en toute intimité à Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, les éblouissantes, jusqu'à 16h.
Jane Birkin, maintes fois des éditeurs vous ont réclamé une autobiographie. Vous avez toujours refusé. Même le biographe officiel de Churchill a insisté pour écrire votre biographie, mais il n'a pas eu plus de chance que les autres. Pourquoi, vous qui avez eu 1000 vies, refusez-vous de consigner vos souvenirs dans un livre ?
Parce qu'il y a un moment donné où on va blesser quelqu'un, forcément. Ou alors il faut enlever tout humour et toute honnêteté. Et non, il y a tellement d'autres personnes qui ont écrit des choses que parfois il faut les corriger quand ils ont tort de dire quelque chose. Mais sinon, je laisse aux autres. Pas envie.
Voilà. Non. Votre mémoire est libre de gambader dans votre tête à sa guise.
Oui.
Alors, il paraît que lorsque la maison de votre maman en Angleterre a brûlé, presque tous les souvenirs de sa vie sont partis dans les flammes. Pourtant, il restait éparpillé quelques traces de sa vie d'avant. Or, votre maman vous a confié qu'elle aurait préféré que tout disparaisse. Vous aussi, avec le temps, vous trouvez qu'il faut voyager léger parce que finalement la mémoire est le seul bien qui vaille.
Je comprends le soulagement de maman quand elle a vu les flammes. Parce que...
Vous comprenez?
Ah bah oui. Sur le moment, je pense que je n'avais pas compris. Mais il y a beaucoup de choses de maman que je n'avais pas compris sur le moment et que je comprends maintenant. Et je pense que de vivre dans les mémoires, de tout d'un coup, tu as envie de complètement autre chose. Un appartement tout nu avec aucune photo sur les murs. C'est très écrasant le passé.
Quelle grand-mère êtes-vous, Jane?
J'espère que j'avais été rigolo pour Romane. Et je l'ai eu très tôt. Parce que Kate a eu son fils quand elle avait 20 ans, donc il n'a que 27. Et il n'a plus de maman. Donc je pense qu'avec lui, j'ai partagé beaucoup de choses parce qu'il avait seulement 4 ans de moins que Lou. Comme ça, je les embarquais tous les deux, ils étaient comme frères et sœurs sur les vacances, c'était chouette. Et avec les enfants de Charlotte, c'est plus classique parce qu'ils ont des âges 6-17 ans, 13 ans. Et 3 ans.
Oui.
Et je sais pas, j'aime faire des conneries avec les enfants et de partir sur des barques, sur le bois de Boulogne et faire des pique-niques et pas penser à quelle heure on va rentrer.
J'imagine que depuis la disparition de Kate, votre fille aînée, le clan s'est resserré encore plus fort autour de vous, s'il est possible. Vous dites que jamais vous n'avez cru en Dieu, vous préférez croire en l'homme. Est-ce que parfois vous aimeriez ne pas être athée?
Je pense pas que ça peut aider dans le... Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, en fait. Tout ce qui peut aider est bon. Tout ce qui peut aider. Et le mort de son enfant, il n'y a pas... Si, il y a pire, bien sûr, il y a des massacres de famille. Mais tout ce qui peut aider est sans doute bien.
Jane Birkin, j'ai envie de vous demander de but en blanc. Les mots de Gainsbourg existent aussi bien sans sa musique qu'avec.
On était à Toulouse, et j'ai chanté arabesque, et puis il y avait une soirée où c'était des mots. Et plutôt que de chercher un autre écrivain, je me suis dit, mais peut-être les mots sans musique sont si forts, Parfois, quand je perdais ma voix, comme toi tout à l'heure, c'était, je parlais les mots et c'était peut-être plus joli que si je les chantais. Donc, je me suis dit pour ce soirée exceptionnelle à Toulouse, ça serait peut-être bien de leur dire, mais je veux être avec fine compagnie. Donc, je me suis souvenue de Hervé Pierre, que j'adore, et qui avait fait une pièce de Lagarce qui s'appelle Voyage à la haie, que je voulais mettre en scène comme film. Je pensais à lui qui est à la Comédie française et je pensais à Piccoli, toujours Piccoli. Et ils ont dit oui tous les deux pour ce spectacle, pour une nuit. Et puis c'est Michel Piccoli qui voulait qu'on remette ça. Et comme je n'ai pas vraiment sorti depuis 10 mois, 11 mois, je me suis dit dans cette compagnie exquise, ça serait bien parce qu'ils sont très drôles aussi. Il y a des textes Serge qui sont très drôles. C'est Philippe Le Richomme qui les a choisis.
Qui a travaillé pendant 17 ans avec Serge.
Ah oui. Oui, oui. Et il a toujours été là après la mort de Serge. Il est la seule personne dans laquelle j'ai complètement confiance de s'il me dit « il ne faut pas faire celui-là » ou « attention là ». Je ne ferai pas. Il est breton et très intègre.
On se retrouve tout de suite avec Jane Birkin.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 le samedi et dimanche. Cet été jusqu'à 16h, les femmes sont à l'honneur. Revivez leur tête-à-tête avec Isabelle Morizet. Suite et fin d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Les éblouissantes avec aujourd'hui Jane Birkin, c'est maintenant.
Jane Birkin, est-ce que vous avez appelé Fanny Ardant pour lui dire combien vous aimeriez faire d'elle l'héroïne de l'histoire que vous avez écrite et que vous espérez réaliser pour le cinéma ?
Ah, c'était un scénario que j'ai écrit il y a 2 ans. Et en fait, je n'ai pas osé lui dire.
Mais pourquoi ?
Je ne sais pas. C'était assez drôle. Mais je le ferai, j'oserai.
Quelle relation entretenez-vous avec les actrices françaises, Jane ? Vous êtes très proche de certaines ou bien, après toutes ces années, vous regardez plutôt de loin s'agiter le monde du cinéma ?
Oh, pas du tout. Je suis une très grande fan de Fanny Ardant, mais également de Nathalie Baye, de Deneuve, de La vie d'Adèle, de Adèle.
Oui, alors justement, vous êtes la première.
Oui, oui, oui.
N'est-ce pas, c'est extraordinaire. Ouais. Avant Abdelatif Kechiche, vous êtes la première à avoir fait tourner Adèle Exarchopoulos,
oui,
qui a remporté donc à Cannes la Palme d'Or, oui, pour La vie, oui, d'Adèle. C'était pour votre film Boxes que vous avez réalisé en 2006. Comment vous l'aviez repéré ?
C'était évident. Il y avait deux petites filles qui étaient exquises. Il y avait une petite fille mélancolique et j'avais une tendance d'aller vers elle. Et puis il y a Adèle qui est arrivée, qui était culottée comme tout, qui vivait avec ses grands-parents, qui était tellement franche, tellement drôle.
Quel âge avait-elle à l'époque ?
Je pense qu'elle avait 12 ans.
Ouais.
Et Lou m'a dit, mais en fait, tu osais me dire plein de choses parce que j'étais drôle. Et c'est vrai, quand tu as un enfant qui a cette qualité d'être une rigolote, d'être vraiment marrant, vous osez dire des choses qui auraient pu être blessantes à propos des pères, à propos de tout. Dans votre amertume, vous pouvez vous laisser aller. Alors que si vous étiez avec un enfant qui allait pleurer, peut-être pas. Donc j'ai choisi Adèle parce qu'elle était comique et parce qu'elle avait un tel caractère. Ça semblait être une évidence. Mais l'autre petite était vachement bien aussi.
Charlotte et Lou échangent beaucoup avec vous sur leurs projets au cinéma ou bien ça reste leur jardin secret ?
Oh non, 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 je ne sais jamais ce qu'ils font.
C'est vrai ?
Pas vraiment. Lou m'a fait écouter quelques chansons l'autre jour. Ça m'a fait très, très plaisir. Et Charlotte et moi, on reste très pudiques sur nos... Même là, j'aime pas trop dire ce que je fais. Tu as dit ce que je fais, donc c'est... Mais j'ai toujours peur que les gens viennent. Et c'est très angoissant d'imaginer que vous avez votre propre famille dans le théâtre, je trouve.
Vous vous souvenez du premier concert, Jane, où vous êtes allez applaudir Lou après la sortie de cet album qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était ovationné par les médias,
ah oui,
et plébiscité,
oui,
par le public.
Oui, oui, c'était dans une toute petite salle, c'était sa première concert. Bien sûr, j'étais là. Et c'était évident dès qu'elle a fait une lecture des écrivains, enfin des lettres de Napoléon, comme Baudelaire. Elle avait fait des lectures dans le bar de le théâtre de la Madeleine. Et c'était giflant, sa façon de parler. C'était déjà très évident. Et là, dans son premier concert, c'était juste inimaginable qu'elle, qui n'a pas fait de scène, était tout de suite comme un canard dans l'eau.
C'était giflant, comme vous dites.
C'était giflant.
Est-ce que vous avez déjà chanté sur scène avec Charlotte ou avec Lou ?
Avec Charlotte.
Avec Charlotte, mais pas avec Lou.
Non, j'ai su que Charlotte avait dit qu'elle avait envie. Sinon, j'aurais jamais osé lui demander. Et quand j'ai su ça, c'était dans la presse. Alors, j'ai osé lui demander.
C'est si par elle... article interposé.
Oui, oui. Et c'était même pas moi qui avais l'article, c'est quelqu'un qui me l'a glissé en disant « Regarde, elle a envie de chanter. » J'ai dit « Non, non, pas avec moi. » Et puis si, c'était marqué avec moi. Donc, je lui ai demandé et elle a chanté avec moi. C'était très joli.
Jen, le temps file entre nos doigts et on arrive au bout de cette balade. Souris et le monde sourit avec toi. Pleure et tu pleures tout seul. C'est plus que jamais votre devise.
C'est maman, elle avait raison. Elle avait raison.
C'est votre mère qui vous disait ça.
Ah oui, 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 oui. Elle est historique, maman. Alors, il n'y a jamais eu de laisser aller, ni... Elle pensait aux autres. Maintenant, j'essaye. J'essaye de penser aux autres.
Est-ce que vous pensez assez à vous?
Ça ne vaut pas vraiment le coup. Les autres pensent pour moi.
Voilà.
Et j'ai des amis.
Et ils vous disent qu'ils vous aiment. Moi, je vous le dis. Je vous embrasse, Jane.
Merci.
Je vous dis à bientôt.
Merci.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, spécial Les Éblouissantes. Votre émission disponible, comme d'habitude, en podcast sur europe1.fr. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, de retour demain à 21h. Vous serez en compagnie de David Hallyday, venu dans l'émission le 15 décembre dernier. Votre après-midi continue sur Europe 1 avec Carl Zéro et Culture Culte, votre rendez-vous l'été. Carl Zéro reçoit Joey Starr. À tout de suite sur Europe 1.